France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Il a sévi pendant plus de 50 ans à travers le monde, un Isérois de 79 ans mis en examen pour 89 viols sur mineurs. C'est l'une des plus graves affaires de pédocriminalité dans l'histoire judiciaire de notre pays. Cet homme a aussi reconnu deux meurtres parmi ses proches, explications dans un instant. À suivre encore l'industriel ArcelorMittal qui se décide à décarboner son site de Dunkerque, investissement colossal, plus d'un milliard d'euros. Nous sommes sur place. Le président de la République également. Bonjour Maxence Lambrec.
Oui, Emmanuel Macron au chevet de l'industrie et du climat pour saluer un investissement massif, un four électrique ici à Dunkerque d'ici 2029.
Un chef de l'État qui prépare aussi l'après 2027, on verra cela avec vous Maxence dans quelques minutes. Les petites annonces à la sauce intelligence artificielle, c'est le bon coin qui s'associe avec ChatGPT. De nouvelles secousses dans le comité d'organisation des Jeux Alpes 2030. Le numéro 2, Cyril Linette vers la sortie. Et puis le Secours catholique. Bonjour Raphaël Ben Abdelmoumen.
Bonjour.
Association qui annonce un plan de licenciement.
Ouais, une réorganisation à marche forcée dénoncée par les syndicats, sans salariés en moins et des craintes pour l'après. Le Secours catholique aura-t-il toujours les moyens de venir en aide aux plus vulnérables?
A tout de suite et puis nous verrons dans quelques minutes comment on occupe les ados à Biarritz. Ce sont les vacances dans l'académie de Bordeaux, entre autres. À partir de 13h30, nous parlons des refus d'obtempérer. Ils ont augmenté l'an dernier sur nos routes. Plusieurs policiers ont été blessés ces derniers jours. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Les petits gestes de solidarité, il y en a beaucoup plus que l'on ne pense et sous de nouvelles formes, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Oël Lecor demande les Italiens d'Eiffel 65. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est une enquête hors norme que dévoile ce matin le procureur de Grenoble. Hors norme par l'ampleur des victimes, par leur nationalité, 9 pays concernés et par les faits qui sont relatés. Au cœur de cette affaire, il y a un homme, 79 ans. Il est donc mis en examen pour des viols, 89 mineurs victimes, mais aussi pour deux meurtres de membres de sa famille. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour Jérôme.
Et cet homme a été trahi par une clé USB.
Oui, trouvée il y a 2 ans par son neveu qui avait des doutes sur son oncle. Il y trouve une masse d'écrits, 15 tomes de mémoire qui parlent notamment de sexualité avec des mineurs. Le neveu confie cette clé aux enquêteurs, un minutieux travail confronté à l'audition du suspect en février 2024. Il reconnaît d'abord avoir volontairement tué sa mère en phase terminale d'un cancer en 1974 et sa tante très âgée en 92. Et dans cette masse de documents donc, 89 mineurs mentionnés, des garçons de 13 à 17 ans rencontrés alors que Jacques Leveugle, puisque le procureur a choisi de donner son nom, parcourt le monde en tant qu'enseignant.
Et comment a pu la justice a attendu près de 55 ans? Les faits sont déroulés durant 55 ans. Il n'y a eu aucune alerte, Delphine?
Il y a eu une plainte en 2016 dans le sud-ouest, mais le suspect avait nié en bloc en garde à vue, classement sans suite. Par ailleurs, explique Étienne Manteau, le procureur de Grenoble, il se positionnait un peu comme un philosophe grec qui éduque.
On n'est pas sur de l'abus classique. Cet homme a passé beaucoup de temps avec chacun des jeunes, beaucoup de temps passé, beaucoup d'argent versé pour payer un permis de conduire, pour faciliter l'installation, et aussi beaucoup de stimulation intellectuelle, ça c'est incontestable aussi. C'est toute la complexité de positionnement aujourd'hui des victimes.
40 d'entre elles ont été identifiées, mais pour certaines, il n'y a parfois qu'un surnom, d'où cet appel à témoins 2 ans après l'ouverture de l'information judiciaire. Le colonel Procédès, direction de la section de recherche de gendarmerie de Grenoble.
C'est déjà donner la parole aux victimes. Le deuxième intérêt de l'appel à témoins, c'est bien entendu consolider le parcours de vie de Monsieur Leveugle, son parcours criminel. Et bien entendu, le dernier intérêt, c'est savoir effectivement si à un moment donné, il n'a pas pu bénéficier de complicité ou de personnes qui auraient agi en sa compagnie sur le même type d'acte.
Et un numéro vert est mis en ligne pour recueillir les témoignages.
Merci Delphine Evenou. C'est dans ce contexte que le Sénat discute cet après-midi d'une proposition de loi pour créer un délit d'exploitation sexuelle en ligne. Délit qui viserait des plateformes comme OnlyFans ou encore Mime, nouveau géant de la pornographie sur Internet. Je vous donne quelques chiffres. 337 millions d'utilisateurs pour OnlyFans, 4 millions de créatrices pour la plupart des jeunes femmes, mais on trouve aussi de jeunes hommes qui vendent leurs photos photos ou des vidéos porno à des abonnés. Derrière, il y a des hommes, souvent très jeunes, qui se présentent comme des managers. Ce sont eux qui sont dans le collimateur. Bonjour Marc Bertrand.
Bonjour.
Notre confrère de France Info, vous avez mené l'enquête et pour comprendre comment fonctionne ce nouveau proxénétisme, vous avez rencontré un de ses managers qui a accepté de témoigner.
Ah oui, il m'a donné rendez-vous au Prince de Galles, 5 étoiles parisien, où il arrive en BMW de location, 19 ans, l'air adolescent, il se présente comme manager OnlyFans.
Ma première modèle, j'ai prospecté entre guillemets sur Instagram. Et ma première modèle, je lui ai simplement envoyé un message en lui expliquant comment elle pouvait générer plus d'argent, qu'est-ce que je pouvais lui apporter. Le salaire moyen d'une créatrice OnlyFans, c'est 200$. Une fille qui n'est pas agencée, c'est 200$. Et aujourd'hui, on a des modèles les plus connus qui font plusieurs millions de dollars par mois.
Ah, c'est ça, sa promesse, leur faire gagner beaucoup d'argent. Les modèles se concentrent sur la production de vidéos pendant qu'il emploie, lui, des chatters recrutés sur Internet, des personnes qui se font passer pour les filles pour vendre un maximum de contenu aux clients.
Il y a des vidéos, par exemple, la modèle va se masturber, va dire le nom du fan, et le mec va être prêt à payer 500$ par exemple.
Le jeune homme prend 50% des revenus, il dit qu'il fait beaucoup d'argent. Quand je lui demande s'il est un proxénète...
Non, quand on bosse avec une modèle, il n'y a aucune contrainte, on ne se voit pas. Si elle veut arrêter, elle peut arrêter à n'importe quel moment.
Et ce n'est pas du tout ce qu'a vécu Christine. Elle vend ses contenus sur OnlyFans. Elle a accepté les avances d'un manager et très vite, elle doit produire toujours plus de vidéos au point de prendre de la kétamine pour tenir. Il garde de l'argent pour lui et quand elle veut partir...
Il a fait fuiter mes contenus, il a publié plein de trucs sans mon consentement sur les réseaux. Enfin, c'était vraiment un truc horrible. Il a payé un mec sur WhatsApp pour m'envoyer une vidéo en bas chez moi parce qu'il avait mon adresse. À minuit, et me dire « sale pute, descends et rends l'argent ».
Christine dit que depuis que ses photos ont fuité sur Internet, elle croise presque tous les jours des hommes dans la rue qui la reconnaissent.
Enquête signée Marc Bertrand. L'affaire avait marqué l'opinion à l'automne 2024. Un ado de 14 ans recruté sur un réseau social comme tueur à gages par un trafiquant de drogue marseillais. Ce jeune homme avait tué le chauffeur VTC qui le conduisait, un père de famille de 36 ans, sans aucun lien avec le trafic. Ce jeune mineur est jugé à Paris depuis ce matin, à huis clos pour homicide volontaire en bande organisée. Puis toujours sur le narcotrafic, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dit ce matin que le militant anti-drogue marseillais Amine Kessassi est, je cite, très menacé et qu'une quinzaine de magistrats qui enquêtent sur ces affaires vivent sous protection. C'est décidément l'hécatombe au sein du comité d'organisation des Jeux d'hiver Alpes 2030. On a eu la démission de la directrice des opérations, celle du directeur de la communication, du directeur du comité des rémunérations. Faut-il s'attendre à un quatrième départ, celui du numéro 2 de ce comité d'organisation ? Bonjour Nathalie Yanetta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Directrice des sports de Radio France, l'ancien patron de Canal+, Cyril Linette ?
Des sports de Canal+. Alors pour le moment, rien n'est officiel. Un communiqué de presse nous était promis et puis finalement il a été retenu. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la crise aiguë a encore franchi un cap ces dernières heures. Le président Edgar Gros-Piron et son directeur général, donc Cyril Linette, semblent avoir acté leur divorce. Maintenant, reste à en savoir les modalités. Et pour ça, il faut quand même que les parties prenantes se parlent et actent les modalités d'un quatrième départ. Ce serait le cas hein, si c'était officialisé. Pour ça, il faudrait que ces parties prenantes se réunissent en bureau exécutif. Pour le moment, on nous parle d'un échange informel. C'est vous dire comme tout ça tangue et que les choses sont moyennement sous contrôle. On voit mal néanmoins comment dans les heures qui viennent, ce quatrième départ ne serait pas officialisé.
Vous nous avez parlé d'Edgar Gros-Piron, c'est le patron de ce comité d'organisation. Ouais. Peut-il rester ? Est-ce que c'est lui le prochain sur la liste ?
On ne peut pas exclure que le fait de sacrifier, entre guillemets, ou en tout cas de se séparer de son directeur général soit un moyen pour Edgar Gros-Piron de garder un petit peu la main. On le sait, hein, depuis le début, cette gouvernance d'Alpes 2030 est tangente, elle ne marche pas. Déjà, organiser des Jeux sur un site éclaté en moins de 6 ans, c'était une gageure. Là, avec un problème de gouvernance, ça s'appelle Mission Impossible. Moi, je suggère qu'on nomme Tom Cruise, du coup.
Très bien, mais il va falloir arriver à trouver une solution, peut-être sans l'acteur américain. Merci Nathalie Yanetta, directrice des sports de Radio France. On reviendra aux Jeux, hein, ceux qui se déroulent en ce moment en Italie, pour parler biathlon dans quelques minutes. Vous pouviez déjà écrire un texte, choisir de la musique, programmer vos voyages. Vous pourrez désormais faire le tri dans les petites annonces. Le leader mondial de l'intelligence artificielle, ChatGPT, s'associe au deuxième site d'e-commerce de France, le français Le Bon Coin, qui va avoir accès à l'application de l'américain. Et c'est le premier commerçant en ligne en France à le faire. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Adrien, on va
bonjour
vous entendre.
Bonjour Jérôme.
Voilà, l'idée c'est de s'y retrouver Adrien parmi les 88 millions d'annonces en ligne.
Oui, la promesse c'est de gagner du temps en laissant l'intelligence artificielle repérer les annonces les plus pertinentes. C'est donc dans ChatGPT que ça se passe, on va faire le test Jérôme si vous voulez. Disons que nous cherchons un appartement autour de la maison de la radio pour y emménager ensemble en colocation. Nous voulons donc deux chambres et comme nous passons beaucoup de temps dans ce studio radio sans lumière, eh bien nous cherchons un logement lumineux. Voilà la réponse. Okay. De ChatGPT, regardez, je vous montre en même temps quatre annonces issues du Bon Coin. Si vous cliquez sur l'une d'elles, vous quittez ChatGPT pour rejoindre le Bon Coin.
Là, j'ai appartement 3 pièces, 55 mètres carrés, 2000 euros.
Oui,
c'est un peu cher pour moi.
Ça vous intéresse, on en parle après si vous voulez. Mais vous pouvez aussi demander à ChatGPT si c'est une bonne affaire. Il produit alors un récap de l'annonce, point positif, point négatif. Dans notre cas, désolé Jérôme, ça s'annonce compliqué. Peu de propriétaires acceptent la colocation. L'IA nous suggère d'élargir notre recherche à Boulogne. Et ici, les Moulineaux. En tout cas, pour le Bon Coin, c'est l'occasion de se positionner sur ces nouveaux parcours d'achat amenés à se nourrir toujours plus d'intelligence artificielle, là où son concurrent Amazon choisit pour l'instant de faire chambre à part, avec ChatGPT.
Merci Adrien Serrière. Là, c'est une vieille industrie, la sidérurgie, la fabrique de l'acier, mais toujours indispensable, notamment pour l'automobile. L'enjeu est le suivant, continuer de produire en Europe, mais en émettant moins de carbone. Après des mois de pause, le numéro 2 mondial, ArcelorMittal, annonce aujourd'hui qu'il va débloquer la décarbonation de son site de Dunkerque, l'un des plus polluants de France, 4000 salariés. On va voir ça avec Maxence Lambrecq, qui est sur place et on l'entend, avec Maxime Debs, également ici. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Avant de vous donner la parole à tous les deux, pourquoi ArcelorMittal décide-t-il enfin de construire son four électrique, 1,3 milliard d'euros d'investissement. Réponse d'Alain Legris de Lassalle, son PDG France.
Il y a deux ans, on parlait du futur et de la remise en cause du futur de la sidérurgie en Europe. Aujourd'hui, en ayant mobilisé toutes les énergies au travers du gouvernement qui a fait un travail considérable pour mobiliser l'Europe, au travers du travail que nous avons fait également de notre côté, on voit qu'en mobilisant les énergies, on arrive à avoir un résultat qui est positif et qui nous donne un avenir et une direction en matière de décarbonation. Aujourd'hui, ça n'est que la première étape. Nous croyons en une industrie sidérurgique en Europe compétitive à partir du moment où les règles de marché sont équitables.
Alain Gris de Lassalle qui s'est exprimé il y a quelques minutes à Dunkerque. Maxime Debs, pourquoi cet investissement maintenant, après des mois de pause ?
Eh bien, officiellement, parce qu'ArcelorMittal se dit rassuré, on vient de l'entendre, des progrès accomplis récemment à Bruxelles pour mieux défendre l'industrie européenne, avec un bouclier visant à freiner un tant soit peu les importations chinoises. Carcelor vient aussi de publier des résultats solides la semaine dernière, autant de voyants au vert qui semblent permettre cette annonce aujourd'hui. Ce four électrique tant attendu, qui commencera à tourner d'ici 3 ans, le premier syndicat du groupe, la CGT, y compris s'en réjouit, la distance quand même qui va avec, Gaëtan Lecoq, son représentant à Dunkerque.
Si vraiment c'est vrai, on peut que s'en féliciter. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que pour sauver notre site de Dunkerque, il nous faut 2 fours électriques et 1 au fourneau vert.
L'investissement aurait pu être, c'est vrai, plus important, initialement prévu autour du 1,8 milliard. En réponse, Arcelor invoque une somme déjà colossale, qui sera d'ailleurs portée pour moitié par les C2E, ces certificats d'économie d'énergie, pour le dire simplement, des aides que peuvent toucher les entreprises qui s'engagent à décarboner. Alors c'est très bien pour la CGT, mais ça ne lève pas pour autant les inquiétudes sur l'emploi.
Bon, je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a 4 Indiens qui viennent d'arriver au service informatique à Dunkerque. Pendant 6 mois. Vous savez leur mission ? Récupérer le savoir-faire des informaticiens du Dunkerquois pour les transférer aux Indiens. C'est pas la CGT qui l'invente, c'est des faits concrets.
Alors, pas question de transférer des milliers de personnels en Inde, pas plus qu'en Pologne, répond Arcelor, qui veut pour témoin le 1,3 milliard d'investissements annoncés ce jour à Dunkerque.
Alors, pour l'occasion, Emmanuel Macron est donc sur place à Dunkerque. Maxence Lambrecq, on vous retrouve. Vous l'avez suivi ce matin, le chef de l'État voit dans cet investissement le fruit de sa persévérance.
Oui, il vient de refaire le film des 3 dernières années au milieu des ouvriers, blouse orange et grise sur le dos, casque blanc, lunettes de protection, micro en main.
Il y a un an, on m'a dit, on va pas investir sur Dunkerque, parce qu'au Vaud, en vrai, on sait pas si on va survivre. On en était là. Tout ça, ça tombe pas du ciel.
Le poing serré, le regard fixe, comprenez, quand on veut, on peut. Drapeau français et européen étendu derrière lui sur ce site qui émet à lui seul 1% des émissions de gaz à effet de serre de la France et accueillera donc dans 4 ans un immense four électrique. Celui que vous entendez derrière nous fait 300 mètres de long.
Maxence, ce déplacement intervient au lendemain de la nomination, hier soir à la tête de la Cour des comptes, d'une proche du chef de l'État, l'actuelle ministre du Budget, Amélie de Montchalin. J'ajoute que le président d'une autre institution, la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lui, a annoncé sa démission. Il aurait pu aller au bout de son mandat fin 2027, mais c'est bien Emmanuel Macron qui va nommer son successeur. Le président prépare déjà la suite après son départ.
Oui, comme autant de garde-fous pour son successeur, peut-être de contre-pouvoir, après son ami Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel jusqu'en 2034, après donc Amélie de Montchalin, qui pourrait en théorie présider la Cour des comptes jusqu'en 2054. Voilà, en effet, une nouvelle nomination cruciale. Le prochain patron de la Banque de France bénéficiera d'un mandat de 6 ans. C'est la République des copains, s'énerve ce matin le député RN Sébastien Chenu. Emmanuel Macron lui a eu cette phrase hier soir, « L'avenir dure longtemps ». Formule utilisée par De Gaulle dans ses mémoires de guerre, elle a fait sourire ses invités dans la salle des fêtes de l'Élysée. Il y avait le banc et l'arrière-banc de la Macronie puisqu'il a décoré hier soir ses fidèles soldats retournés dans le privé. Stanislas Guérini, Olivier Dussopt, la Légion d'honneur sur la veste. Ça ressemblait, il l'a reconnu, à un meeting politique. Il laisse entrevoir que l'histoire n'est pas finie, admet un participant. 2032, bien sûr qu'il y pense, nous confiait il y a quelque temps un de ses conseillers officieux. Alors que plus personne ou presque ne défend son bilan, il le porte donc lui-même de la ferme à l'usine. Regardez au-dessus de vous, monsieur le président, lui lance ici une employée d'Arcelor, cette fine couche d'acier d'un demi-millimètre d'épaisseur qui défile. Cela donne à la fin de grosses bobines, de quoi construire des moteurs de voitures électriques, et l'IA détecte la moindre anomalie. Pour son bilan à lui, ses anciens premiers ministres s'en chargent. Quant à son épaisseur, il espère que le temps fera son œuvre couche par couche, car croyez-le, l'avenir dure longtemps.
Maxence Lambrec en direct de Dunkerque avec les moyens techniques de Florent Layani. Nous parlons investissement industriel à Dunkerque, mais pendant ce temps, le chômage continue de grimper, plus 0,6% sur un an selon les chiffres de l'INSEE communiqués ce matin. Taux de chômage de 7,9% en France en fin d'année 2025, au plus haut depuis 2021. Revenons à la politique, les élections municipales. Dans 5 semaines, les candidats dévoilent leur programme. Nous vous avons parlé ici même à Paris la semaine dernière de celui du socialiste Emmanuel Grégoire. Ce matin, c'était sa rivale de droite, Rachida Dati, qui présentait ses mesures. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Vous y avez assisté. Angle d'attaque de Rachida Dati, les affaires de violences sexuelles dans le périscolaire à Paris.
Dès les premiers instants de cette longue conférence de presse, un père de famille dont la fille de 5 ans a été victime d'agressions sexuelles dans une école du 11e arrondissement de la capitale, est invité par Rachida Dati à prendre la parole.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant qui ne dort plus ? Aujourd'hui, je la dépose à l'école avec peur. Je la dépose avec peur parce que je fais face, mais ma situation n'a rien d'extraordinaire. Comme tous les parents, à un mur.
Ronan le jure, il n'est pas militant, pas encarté. Il a contacté sa mairie d'arrondissement, socialiste, dit ne pas avoir eu de réponse. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers l'équipe de Rachida Dati, qui l'a invité à s'exprimer ce matin. Manière pour celle qui est toujours ministre de distribuer des coups à la majorité sortante.
Hier, Madame Hidalgo nous a dit, avec Monsieur Grégoire, que nous en faisions une obsession. Nous en faisons une mission.
Emmanuel Grégoire, son principal adversaire, c'est lui qui a mis en place le protocole de contrôle des animateurs dans le périscolaire parisien. Rachida Dati brandit donc une mesure. Pas un enfant seul dans l'école avec un animateur, sous les applaudissements. Mais cette règle existe pourtant déjà dans la charte de la ville.
Nous changerons l'organisation du scolaire et du temps périscolaire avec des animateurs formés, professionnels, qui auront un statut. Et qui auront un statut au sein de la ville de Paris.
Revaloriser les salaires pour attirer sur le long terme 14 000 animateurs expérimentés, c'est sa promesse. Tout comme Emmanuel Grégoire, il s'est emparé de cette question. Lui qui a révélé sur France Inter avoir été lui-même victime d'agressions sexuelles quand il était enfant.
Merci Mathieu Bonnour. J'ajoute ce soir le premier grand meeting, toujours dans le 11e arrondissement, d'un autre candidat, celui-là de centre-droit, Pierre-Yves Bournazel, en présence de ses soutiens, les anciens premiers ministres Gabriel Attal et Édouard Philippe. Rachida Dati l'a appelé ce matin au rassemblement pour ne pas être, dit-elle, l'artisan de la défaite.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Jusqu'ici, les remous provoqués par la divulgation du dossier judiciaire de Jeffrey Epstein ont impliqué de très nombreuses personnalités à travers le monde, mais aucun chef d'État ou de gouvernement n'a dû démissionner. Le chef du gouvernement britannique, le travailleur Keir Starmer, sera peut-être le premier. Il n'est pas mis en cause pour ses liens avec le criminel sexuel américain, mais pour avoir nommé comme ambassadeur aux États-Unis un homme qui lui s'était compromis avec Epstein, Peter Mandelson, ancien ministre au Royaume-Uni et accusé d'avoir transmis transmis à l'Américain des informations sensibles. Bonjour Laura Kalmus.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres, devant le siège du Premier ministre britannique d'ailleurs. Beaucoup de proches de Starmer ont démissionné ces dernières heures, mais lui est bien décidé à traverser la tempête.
Exactement, et Keir Starmer a gagné du temps, mais rien n'est réglé tout de même. Alors hier soir, sa position semblait vaciller, avec notamment l'appel à la démission lancé par Anas Sawar, le chef du Labour écossais, et puis retournement, tout son cabinet se range publiquement derrière lui. Ce matin, l'objectif était clair, lors d'une réunion au 10 Downing Street, les ministres sont tous arrivés le pas assuré pour afficher l'unité. Alors face aux députés travaillistes, le Premier ministre assume sa responsabilité dans la nomination de Peter Mandelson. Il a présenté ses excuses, mais il adopte aussi un ton combatif. Il dit ne pas être prêt à abandonner son mandat et affirme avoir gagné tous les combats de sa carrière. Mais en coulisses, le malaise reste profond. La stratégie désormais est simple. Gagner du temps, notamment jusqu'à la pause parlementaire de fin de semaine, pour tenter de reprendre la main et éviter une fronde immédiate.
Laura Kalmus devant le 10 Downing Street à Londres. Alors Epstein est mort en prison. En 2019, il ne donnera plus aucun élément sur le trafic sexuel qu'il dirigeait, ni sur ses victimes, ni sur ses bénéficiaires. En revanche, sa complice, Ghislaine Maxwell, qui fut sa compagne, elle pourrait le faire. Elle était entendue la nuit dernière par une commission de la Chambre américaine des représentants. Elle s'est dit prête à parler, à condition d'être gracié par Donald Trump. Olivier Poujade, il est vrai que cette franco-britannique détient une part des secrets de cette affaire.
Elle est sans aucun doute le témoin direct le plus renseigné sur la vie de Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell a partagé la vie du milliardaire américain pendant près de 30 ans, trois décennies durant lesquelles cette Britannique, mondaine, brillante, diplômée d'Oxford, occupera un rôle assez difficile à définir aux côtés de Jeffrey Epstein. Elle a souvent considéré être en couple avec lui, une compagne, une confidente si dévouée qu'elle ira jusqu'à occuper une place centrale dans le gigantesque réseau de pédophilie organisé autour de Jeffrey Epstein. Durant de nombreuses années, Ghislaine Maxwell recrute, sélectionne et donne des conseils sur les préférences sexuelles du milliardaire aux jeunes femmes mineures sélectionnées. Incitation à des actes sexuels illégaux. Voilà pourquoi Ghislaine Maxwell est aujourd'hui incarcérée dans une prison correctionnelle fédérale de Floride. La valeur de son témoignage pourrait s'avérer déterminante. Ghislaine Maxwell le sait et se dit prête aujourd'hui à innocenter Donald Trump et Bill Clinton en échange d'une grâce présidentielle.
Précision signée Olivier Poujade. Au Proche-Orient, ils sont les grands oubliés des drames que subissent les Arabes. Les 2 millions d'Arabes israéliens depuis le massacre du 7 octobre, 252 ont été tués selon le décompte de l'ONG Abraham Initiative qui pilote un observatoire depuis 20 ans. Ces Arabes israéliens manifestent aujourd'hui pour dire leur ras-le-bol et réclamer l'intervention de la police qui en Israël est dirigée par le suprématiste d'extrême droite Itamar Ben-Gvir. Reportage à Sakhnin, Thibault Lefebvre.
Ali Zubaydat est un lanceur d'alerte.
Je ne suis pas un héros, je suis juste un habitant de Sarnin, comme un autre.
Le 2 janvier dernier, au milieu de la nuit, des hommes armés tirent sur la devanture d'un de ces trois supermarchés. Le propriétaire d'un peu plus de 70 ans y voit un message d'un des gangs locaux pour lui extorquer de l'argent. Mais surtout, un premier avertissement avant que la menace ne se précise.
Mon fils le plus jeune a ensuite reçu un appel. Un homme lui disait qu'il connaissait exactement ses horaires de déplacement entre Sarnin et Haïfa. Il a ajouté que s'il ne s'exécutait pas, il serait tué.
Alors le jour même, Ali Zubaydat décide de fermer ses magasins. D'autres commerçants suivent le mouvement et des manifestations inédites par leur ampleur sont organisées. Mohamed Darafcheh est un analyste politique.
Depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir, le taux de criminalité dans la communauté arabe en Israël a dramatiquement augmenté. Ils ont décidé de ne pas s'en préoccuper. C'est un gouvernement qui considère que créer le chaos dans la communauté arabe est une façon de la contrôler. Le seul moyen de résoudre le problème, c'est de changer le gouvernement.
Et conséquence de la mobilisation de la société civile, les principaux partis arabes israéliens ont décidé de faire front commun pour les prochaines élections.
Reportage Thibault Lefebvre en Israël. C'est une association qui vacille. Le Secours catholique, 900 salariés, 60 000 bénévoles, 1 060 000 personnes aidées chaque année. Mais un plan social qui s'annonce, 100 personnes vont être licenciées. Ce plan a été signé vendredi dernier. Il était présenté en CSE ce matin. Raphaël Ben Abdelmoumen, on vous retrouve dans le centre de Paris. Vous avez rencontré des salariés extrêmement inquiets ce matin.
Oui, devant le siège de l'association, dans le chic 7e arrondissement de la capitale, les salariés sont dépités. Joël Dacosta est délégué syndical d'Assos Solidaire. Il travaille depuis 9 ans au Secours catholique.
On n'était vraiment pas prêt à vivre ce qu'on est en train de vivre depuis plusieurs mois. On est dans une association qui promeut des valeurs humanistes au quotidien. Et là, ce qu'on a vécu depuis 3 mois, on est assez éloigné de ces valeurs-là. On se dit que notre objectif principal, c'est d'aider les personnes qui sont en situation de précarité. Mais on se rend compte en même temps que peut-être des collègues vont se transformer en personnes qui vont être dans des situations très précaires.
Sans licenciement économique, qui pourrait être évité d'après lui? Selon les syndicats, il existe d'autres solutions face à l'érosion des finances de l'association qui vit à 90% des dons. Cette jeune salariée qui souhaite rester anonyme craint de perdre son emploi et s'inquiète aussi pour la pérennité des missions du Secours catholique.
Je ne sais même pas si j'ai plus peur d'être licenciée ou de rester parce que c'est déjà très précaire sur le terrain. Les équipes sont surchargées, on n'a pas le temps de s'occuper des bénéficiaires. Avec des personnes en moins, des coordinations en moins, comment accompagner les gens autre que les faire passer, remplir des formulaires? Je vois pas dans quelles conditions on peut maintenir une activité en adéquation avec nos valeurs.
Tous attendent donc de connaître les contours précis de ce plan social. Une assemblée générale cet après-midi doit permettre de prendre la température et d'envisager une éventuelle mobilisation.
Raphaël Ben Abdelmoumen au Secours catholique avec Clément Vuillet. Les Jeux d'hiver après les coulisses tout à l'heure de France 2030. La neige de Milan-Cortina 2026, déception ce matin en ski de fond pour les Français, notamment pour Jules Chapaz, éliminé en quart de finale. Déception aussi pour le relais mixte en short track, les Bleus sortis en quart de finale également. Tous les espoirs tricolores aujourd'hui reposent donc sur le biathlon avec l'épreuve individuelle homme des 20 km. C'est à Anterselva où vous vous trouvez. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Très grande chance de médaille dans quelques minutes.
Et pourquoi pas effectivement une deuxième médaille, un deuxième titre en deux courses pour le biathlon tricolore. En tout cas, c'est raisonnable de le penser. Tous les regards seront évidemment tournés vers le jeune Éric Perrault, 24 ans, celui qui porte le dossard jaune de meilleur biathlète du monde en ce moment. Celui qui a été également champion du monde de l'individuel il y a un an, qui a remporté la dernière course individuelle avant ces Jeux. Éric Perrault, extrêmement ambitieux, il le dit, il le répète, il veut tout dévorer dans ces Jeux Olympiques. Alors on comptera 3 autres Français dans cette épreuve qui va démarrer dans 3 minutes maintenant. Et évidemment, il y aura l'inoxydable Quentin Fillon-Maillet, 33 ans, le champion olympique en titre de l'individuel. Voilà un peu pour le tableau français avec toujours cette énorme tribune, ce mur multicolore qui se dresse face à nous. Ces 19 000 spectateurs qui seront là pour donner de la voix durant toute la course. Et évidemment des Français, hein. J'aperçois des drapeaux tricolores par petites grappes par-ci et par-là, mais en tout cas on va sans doute se régaler pour cette deuxième course de biathlon, la première en individuel, et on l'espère une Marseillaise dans un peu plus de 2 heures.
C'est départ dans 2 minutes.
Exactement, c'est départ à 13h30, ouais. Et c'est un peu comme un contre-la-montre, des départs toutes les 30 secondes, 20 km à parcourir et 4 séances de tir.
Jérôme Val en direct d'Anterselva. Alors pour occuper les jeunes pendant les vacances scolaires qui ont débuté dans de nombreuses zones, il y a la possibilité de suivre effectivement les Jeux Olympiques d'hiver. Mais il y a d'autres possibilités également, c'est ce qui se passe au local ado du centre social Maria Pia de Biarritz, où les jeunes de 11 à 17 ans se retrouvent chaque jour autour d'activités et de projets originaux. Hugo Marceau sur place.
Joyeuse cacophonie autour de la table.
Là, faut refaire une boule après.
Et une douce odeur sucrée. Les vacances commencent en cuisine.
Mais on étalerait avec les mains.
Esteban, 15 ans, la mine appliquée, met la main à la pâte en binôme avec Elsa.
Là, nous, personnellement, on est en train de faire des granolas.
La première fois qu'il est venu, il était en 6e. Depuis, la maison des ados, c'est son rendez-vous des vacances.
Je me suis fait beaucoup d'amis avec ce local. Avant, j'étais très timide. Maintenant, je suis beaucoup moins timide. Les gens viennent vers moi ou moi, je viens vers les gens pour parler, pour faire des liens. bien. Et j'ai même influencé beaucoup d'amis à moi à venir dans ce local.
Assise à sa gauche, Léna, 11 ans, est occupée à garnir des rondelles sablées de chocolat fondu. Elle a trouvé ici une bulle d'oxygène à mi-chemin entre le collège et la maison.
On ne fait pas nos petites affaires seuls. Enfin, on est tous ensemble et on participe chacun. On fait la vaisselle. C'est comme une grande famille, mais qu'on ne voit pas tout le temps. Mais on y va quand même souvent et c'est pour ça que c'est bien. Je crois pas que je le trouverai ailleurs. Bah, parce que déjà ma sœur elle est beaucoup plus petite et puis il y a aussi des animateurs qui ne sont pas nos parents, donc ça c'est bien.
S'il n'y avait pas le local pendant les vacances, Léna resterait toute seule à la maison et ce serait beaucoup moins bien, confie-t-elle.
Et voilà de bonnes initiatives et de bonnes idées. Reportage ici Pays Basque, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. On va savoir si on peut sortir avec les enfants cet après-midi. Puis à partir de 13h30, comment gérer les refus d'obtempérer? Les forces de l'ordre y ont été davantage confrontées l'an dernier. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages, notamment si vous en avez été vous-même témoin. 13h45, notre feuilleton, la Bourgogne à vélo. Sur la route des municipales, il y a aujourd'hui des vignerons. Et puis à 13h50, c'est la France. Cyril Petit, Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de Nantes en Loire-Atlantique à Roubaix dans le Nord, en passant par Blagnac en Haute-Garonne, je vous parle, Jérôme, d'initiatives solidaires qui montrent la générosité française.
Et avec vous, Julien, une comédienne.
Oël Lecor qui est sur scène avec Le Petit Prince et nous invite à danser sur la chanson I'm Blue de Eiffel 65.
Des Italiens, je crois. Retour en Italie avec vous juste avant 14h. Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
France Inter présente
Femmes d'exception.
Laure Adler.
Leurs parcours sont des inspirations pour le féminisme d'aujourd'hui et de demain. Je vous raconte les histoires de Niki de Saint-Phal, Delphine Seyrig, Germaine Tillon et Etty Hilsoum, des femmes engagées qui ont marqué le XXe siècle.
Femmes d'exception.
À télécharger sur l'application Radio France.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous.
Une journée encore perturbée.
Oui, et vous pourrez donc sortir les enfants, mais avec un bon caouet.
Ouais, c'est ça, faut se couvrir.
Voilà, car les pluies vont concerner cet après-midi l'ensemble du territoire. Si elles restent localement faibles des Hauts-de-France aux régions de l'Est, elles sont temporairement plus soutenues sur un large quart sud-ouest, notamment près du relief. Des averses qui se développent sur la façade ouest aussi, prenant un caractère orageux à l'approche de l'océan. Et puis l'Est n'échappe pas non plus à la perturbation. Sur les Alpes, la limite pluie-neige redescend vers 1500 à 1700 mètres, tandis qu'en Corse, même si le soleil fait quelques apparitions, le ciel est variable avec quelques averses. Météo France maintient 3 départements de l'Ouest en vigilance orange pour des risques de crues, Morbihan, Vendée et Deux-Sèvres.
Et le vent se renforce toujours dans la douceur.
En vallée du Rhône et sur la moitié ouest, le vent atteint 60-70 km par heure aujourd'hui. Il se renforce nettement ce soir et cette nuit pour atteindre 70-90 km par heure sur la façade atlantique, comme dans le domaine de la Tramontagne, jusqu'à 80-100 sur le relief du Massif central, ce qui atténuera un petit peu la sensation de douceur amené par les températures de la journée, 9 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 sur le sud. Il fera 10 à Dijon, mais 14 à Paris, jusqu'à 20 degrés à Bayonne.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
2 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Voilà ce qu'encourt un automobiliste qui se rendrait coupable d'un refus d'obtempérer. Et ils sont de plus en plus nombreux, 28 200 l'an dernier, plus 11%. Tout cela après 2 années de baisse, 2022-2023, et puis une année de stabilité, c'était l'année 2024. Rien que ces derniers jours, une dizaine de policiers ont été blessés à Nantes, Villeurbanne ou encore Saint-Mandé. Sans parler des courses-poursuites qui font des victimes extérieures au contrôle. Ainsi, le jeune Mathis, tué à Lille en novembre dernier par un chauffard en fuite. Alors, comment intervenir dans ces conditions? Faut-il poursuivre les fuyards? Et si oui, comment? En Angleterre, les policiers vont jusqu'à percuter les véhicules en fuite dans certaines conditions. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? 01 45 24 7000 pour être avec nous. Pour vos questions, pour vos témoignages aussi, si vous avez été vous-même témoin de ce type de fuite ou de refus d'obtempérer. Je vous présente nos invités. Agathe Foucault, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole de la police nationale, merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes commissaire de police et que vous avez vous-même été confronté à ce type de situation. On en parlera ensemble dans quelques minutes. Nous sommes également en ligne avec maître Yann Knafou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat en droit pénal et vous comptez, entre autres, parmi vos clients, des conducteurs qui ont refusé de s'arrêter lors d'un contrôle. Vous allez aussi pouvoir nous parler de ces situations. 01 45 24 7000 donc pour vos appels. Agathe Foucault, plus 11% pour ses refus d'obtempérer l'an dernier. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces cas supplémentaires? Est-ce qu'on sait expliquer cette hausse?
Alors, les raisons de l'augmentation du nombre de refus d'obtempérer, je ne les ai pas précisément, mais ce qui est intéressant aussi dans l'augmentation de ces refus d'obtempérer, c'est que la part des refus d'obtempérer aggravés était également en hausse. Elle est de l'ordre de 22% en 2025. Elle était de l'ordre de 16% il y a moins de 10 ans.
Donc un quart de ces refus d'obtempérer sont des refus d'obtempérer qu'on dit graves.
Alors, qu'on dit un refus d'obtempérer est toujours grave, c'est un délit, mais qu'on dit aggravé voilà. Parce qu'il va mettre
c'est
en danger... Ça veut dire
qu'il
va mettre en danger les autres usagers de la route. Donc il va mettre en danger les piétons, il va mettre en danger les cyclistes, les autres automobilistes et également les policiers.
Est-ce que c'est pas lié au trafic de drogue? On sait que le trafic de cocaïne augmente. Vous mettez des moyens de police pour essayer de le contrecarrer. Des délinquants, des criminels arrivent, vous tentez de les interpeller et ils n'ont pas envie de se faire arrêter.
Dans bien des situations, en effet, les individus prennent la fuite parce qu'ils sont auteurs d'infractions. Ça va être des infractions au code de la route, ils ne vont pas être en possession du permis de conduire, de l'assurance, ou lorsqu'ils vont être interpellés, on va découvrir dans leur véhicule, effectivement, des matières stupéfiantes ou des armes. Et c'est pour cette raison, bien souvent, qu'ils refusent, effectivement, d'être contrôlés et font un refus d'obtempérer.
Je repose ma question sur le trafic de drogue, parce qu'il y a eu à Clermont-Ferrand, la nuit dernière, un refus d'obtempérer, des policiers qui prennent une voiture en chasse sur plusieurs kilomètres. Le véhicule finit par s'arrêter près du Zénith de Clermont-Ferrand. Le conducteur est arrêté, le passager, lui, prend la fuite. Et puis, on se rend compte que, juste avant la course-poursuite, ce véhicule était près d'un point de deal et on l'a retrouvé avec trois impacts de balles sur la carrosserie. Donc là, on fait le lien direct entre trafic de drogue et refus d'obtempérer. Est-ce que c'est souvent le cas ?
C'est sans doute parfois le cas, mais sur les 28 200 refus d'obtempérer, tous ne sont naturellement pas liés au trafic de stupéfiants et parfois sont simplement liés... à une peur du conducteur, à un défaut d'assurance ou un défaut de permis de conduire.
Yann Knafou, quel est le profil? Vous êtes avocat. Quel est le profil des automobilistes qui viennent vous voir, que vous défendez?
Il y a deux types de profils. Vous avez ceux qui, entre guillemets, vont avoir un refus d'obtempérer prémédité. C'est-à-dire, si vous êtes un trafiquant de stupéfiants, un trafiquant d'armes, vous avez ça dans votre véhicule, vous savez parfaitement qu'en cas de contrôle, vous allez prendre la fuite. Vous en avez d'autres qui sont des refus d'obtempérer de circonstances, qui vont avoir peur, comme le disait votre invité, parce que sur le moment, s'aperçoivent qu'ils ne sont peut-être pas avec la bonne assurance, avec le permis, en situation irrégulière. Et donc, face à ce contrôle, vont prendre la décision de refuser d'obtempérer, mais qui est une décision qui se prend vraiment en une fraction de seconde. Et donc voilà, je dirais que ce sont ces deux profils, mais qui le font pour des raisons qui sont quand même assez différentes, puisque ce sont des infractions qu'on peut leur reprocher, qui sont radicalement différentes en termes de gravité.
François nous appelle de Nantes. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Votre permis vous a été retiré récemment et je crois que vous avez une question.
Oui, parce que mon assureur, j'ai voulu assurer un scooter auprès de mon assureur actuel. Et quand j'ai demandé d'assurer un scooter, on m'a demandé pourquoi j'étais en retrait, pourquoi j'avais un retrait, une suspension de permis. Et du coup, on m'a envoyé un courrier de recommandé en me signalant qu'on arrêtait d'assurer ma moto et ma voiture, alors que je n'ai jamais eu d'accident particulier.
Mais vous avez eu une suspension de permis suite à un délit? Qu'est-ce qui s'est passé?
Suite à une prise de stupéfiants, la prise de stupéfiants, c'était positif, mais je n'étais pas sous emprise.
D'accord, mais quand vous avez été arrêté par les policiers ou les gendarmes, je ne sais pas.
Oui, les gendarmes.
Les gendarmes, ils vous ont contrôlé et là est apparue la consommation de stupéfiants.
C'est ça.
Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes posé la question d'obtempérer ou pas, François, sincèrement?
Non, je me suis pas posé la question. J'ai obtempéré directement, mais le problème, ça va être de se réassurer. Et je trouve que les assurances, ils nous donnent la double peine une fois qu'on est... Donc je comprends en fait les gens qui à partir de plusieurs retraits ou d'incidents, refusent d'obtempérer parce qu'après, il y a un défaut d'assurance, etc.
Avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, François, on le sait, pour les policiers et pour d'autres personnes qui ont pu être victimes de ce type de refus. Mais merci de nous avoir appelé 01 45 24 7000. Yann Knafou, vous nous disiez à l'instant, vous qui êtes avocat, ça se joue en une fraction de seconde, la décision.
Oui, c'est un pied sur une pédale. C'est, vous appuyez à droite, vous accélérez, vous appuyez à gauche, vous freinez. Et ça, c'est une décision qui se prend en une seconde. Vous avez l'agent qui est face à vous, sur le côté, qui vous demande de vous arrêter. Et à ce moment-là, bah, vous prenez la décision. Donc heureusement, dans l'écrasante majorité des cas, les gens prennent la décision de s'arrêter. Mais parfois, bah, c'est les sujets dont on parle, 28 200, refus d'obtempérer, les personnes appuient sur la pédale d'accélérateur et prennent la fuite pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont celles qu'on a évoquées précédemment.
Agathe Foucault, vous êtes porte-parole de la police nationale, vous avez entendu François, comment les policiers ou les gendarmes d'ailleurs appréhendent ce moment où le véhicule ralentit et où il va s'arrêter? C'est un moment critique, est-ce qu'il y a des choses à faire? Comment est-ce que vous gérez ce moment-là?
Le contrôle routier, effectivement, est enseigné en école de police de manière réglementaire, avec des gestes, avec des paroles adressées aux conducteurs. Mais c'est toujours un moment où les individus peuvent prendre la fuite, donc ce qui va nécessiter de la part des policiers un positionnement particulier, un discernement particulier, et ce qui n'empêche pas chaque année, effectivement, qu'il y ait des blessés. Et on a compté en 2024 515 policiers qui ont été blessés dans le cadre de refus d'obtempérer, ce qui ne se justifie pas dans le cadre d'une mission de police.
Ça vous est arrivé de vous retrouver face à un refus d'obtempérer? Vous êtes commissaire, je le rappelle.
Tout à fait. Bien sûr.
Vous pouvez nous raconter?
Ça m'est arrivé, j'étais en mission en Outre-mer, et nous avons effectivement fait face à une personne qui a refusé d'obtempérer, et nous l'avons prise en charge. Elle a fini par avoir un accident, et nous l'avons interpellée à ce moment-là. Donc c'est une mission, le refus d'obtempérer, c'est une situation à laquelle fait face tous les policiers qui sont sur le terrain au quotidien, et on parle d'une fraction de seconde dont dispose le conducteur pour savoir s'il va s'arrêter ou pas. Il ne doit pas avoir cette réflexion, les conducteurs doivent s'arrêter et les policiers, eux, ont également cette fraction de seconde dans la prise en charge du véhicule et ils le font avec professionnalisme et avec discernement.
Plusieurs policiers ont été blessés ces derniers jours. Qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils ont recouvré leur état physique? Est-ce qu'ils retrouvent leur poste? Est-ce qu'on les met à nouveau en position de devoir gérer de nouveaux refus?
Il y a un accompagnement des policiers blessés, hein, avec une mission particulière, la mission d'accompagnement des policiers blessés. Et effectivement, en fonction des séquelles physiques, des séquelles aussi mentales qu'il peut avoir, et bien les missions peuvent être adaptées, mais c'est toujours un traumatisme pour un policier lorsqu'il est blessé dans le cadre d'une mission de police, et en particulier dans le cadre d'un refus d'obtempérer.
Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de ces policiers qui ne referont plus de contrôle routier?
Un certain nombre de policiers qui n'ira plus sur la voie publique, parce que il y a d'abord d'autres missions dans la police nationale et qu'effectivement ça peut susciter une appréhension particulière.
Alors dans quelles conditions est-ce qu'on poursuit? Refus d'obtempérer, le véhicule poursuit sa route, la poursuite est-elle systématique?
La poursuite, elle se fait selon la réflexion des membres de l'équipage des policiers. Depuis mai 2025, les instructions du directeur général de la police nationale et du ministre de l'Intérieur sont claires. On peut prendre en charge, on peut faire une course-poursuite d'un conducteur qui refuserait d'obtempérer dans le but de l'intercepter et de l'interpeller. Là encore, la raison pour laquelle on souhaite contrôler un conducteur, c'est soit parce qu'il a commis un délit ou est susceptible d'en avoir commis un, soit parce qu'on souhaite simplement le contrôler parce que le code de la route nous le permet pour assurer la sécurité routière et assurer la sécurité de tous sur nos routes.
Pourquoi ce changement? Vous avez les moyens de retrouver ces conducteurs par des moyens d'enquête traditionnels? Et peut-être avec moins de risques pour le conducteur et aussi pour les policiers. On a parlé de ces policiers blessés qui ensuite peut-être ne reviennent pas sur la voie publique. Il y a des graves conséquences pour eux.
Il y a des graves conséquences. Les policiers font preuve de discernement sur les 28 200. Tous n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge. Lorsque le policier se retrouve en zone urbaine, que c'est à côté d'une école et qu'il est 16h, on imagine bien qu'a priori, il ne va pas prendre en charge le véhicule. En revanche, dans d'autres circonstances qui sont laissées à son appréciation, à l'appréciation de l'ensemble de l'équipage, en lien avec les policiers qui sont à la salle de commandement, eh bien, il peut avoir une prise en charge, là encore, dans l'objectif d'intercepter, d'interpeller l'auteur de l'infraction.
Yann Knafou, est-ce que vous portez un regard sur ces nouvelles consignes, vous qui défendez parfois des automobilistes qui sont poursuivis pour des refus d'obtempérer?
C'est compliqué parce que j'entends votre invité et effectivement, elle a raison, il faut s'arrêter lorsque la police nous le demande et la décision qui est prise est la mauvaise. Mais il y a évidemment des policiers qui vont avoir un discernement qui n'est pas le bon et qui vont aussi décider, et ça se voit, j'ai notamment un de mes clients qui est malheureusement décédé, la police a fait usage de son arme en pleine heure de pointe, il y avait une école à côté, il y avait le tramway qui venait de s'arrêter, et il était dans une impasse quasiment à l'arrêt. Donc Il faut comprendre qu'il y a des erreurs de discernement qui peuvent être commises de tous les côtés. C'est une infraction où il faut prendre des décisions très rapidement. C'est très compliqué, effectivement, pour la police. Mais voilà, il faut comprendre que la loi prévoit effectivement cette circonstance aggravante de mise en danger. Et la mise en danger, à l'évidence, elle va naître et elle va naître du refus d'obtempérer, mais elle va s'aggraver en cas de prise en charge, en cas de course-poursuite, en cas d'usage d'une arme. La mise en danger pour le public qui se trouve autour de la scène est évidemment aggravée par l'action des policiers, qui est légitime, mais qui va aggraver ce risque et ce danger pour le public.
Dans le cas dont vous parlez, un policier ou des policiers ont été poursuivis, Yann Knafou ? Oui.
Ils sont actuellement mis en examen dans une affaire qui est toujours en cours à l'instruction.
Agathe Foucault, est-ce qu'il y a là encore un retour d'expérience lorsqu'il y a ce type d'événement, que ça se termine par des policiers qui se trouvent contraints, ou en tout cas qui estiment qu'il est juste d'ouvrir le feu ?
Sur l'usage des armes en véhicule en mouvement, le cadre légal a évolué en 2017 avec le code de la sécurité intérieure aujourd'hui qui, dans une des cinq situations, permet effectivement au policier de faire usage de son arme lorsque le conducteur n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt et lorsque le conducteur, dans sa fuite, est susceptible de porter atteinte à sa vie ou à l'intégrité d'autrui. Donc, effectivement, le nombre de tirs sur les véhicules en mouvement a légèrement augmenté entre 2023 et 2024. Il était de 79, il est passé à 87, mais sur les dernières années, depuis 2019, il est largement en baisse. On était de l'ordre de 150, on est à 89. Donc les policiers aujourd'hui disposent d'un cadre légal, là encore, dans le seul objectif de préserver l'intégrité physique d'autrui, des autres personnes qui sont usagers de la route.
Mais est-ce que chaque situation fait l'objet d'une analyse de la part de vos services pour savoir ce qui s'est passé ?
Naturellement, ouais. Sous la direction des magistrats, parce que ce sont des enquêtes judiciaires, il y a aussi des enquêtes administratives prédisciplinaires, mais là on parle de judiciaire et c'est le magistrat qui dirige l'enquête.
Romain est avec nous, bonjour Romain.
Bonjour.
Vous nous appelez bonjour du Loiret, où vous êtes sapeur-pompier volontaire, nous vous écoutons.
Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure, un échange très intéressant. Et c'est vrai que nous, on est confrontés avec les forces de l'ordre hein, quand on intervient. Et on trouve de plus en plus, depuis un ou deux ans, une criminalité routière où nous, on nous met en danger, et les forces de l'ordre aussi. Et on voit un peu l'impuissance, malheureusement, les courses-poursuites qui se font maintenant de plus en plus dans les centres-villes. Quoi.
Ça vous est arrivé, Romain, d'intervenir et d'être en danger ? Vous pouvez nous raconter ?
Oui, un retour d'intervention où on voit une voiture nous doubler sans éclairage et deux voitures de police derrière, la suivante, et puis elle a fait une sortie de route à peu près même pas 800 mètres après quoi. Donc on voit vraiment la mise en danger de tout le monde quoi. Ils sont vraiment totalement inconscients et de plus en plus jeunes quoi.
Merci Romain pour ce témoignage. D'un mot, Agathe Foucault, les policiers britanniques, on doit tamponner les véhicules. Ça se fait depuis quelques années dans des conditions très précises. Est-ce qu'il y a une réflexion chez nous pour ça ou pas du tout ?
Aujourd'hui, c'est pas le cadre qui est possible pour les policiers. Ce qui est privilégié, c'est la sécurité des policiers. Donc ce n'est pas aujourd'hui une option pour le policier français sur le terrain.
Merci à tous les deux, Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale. Merci également à Maître Yann Knafou qui était en ligne avec nous. Merci à vous qui nous avez appelé aujourd'hui, 13h47 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton sur la route des municipales. Là, nous sommes à vélo, puisque c'est ainsi que Laurence Perron, notre journaliste, a sillonné la Bourgogne ces derniers jours. Aujourd'hui, pause dans les villages viticoles des Maranges à l'occasion de la Saint-Vincent. C'est une fête locale très appréciée. Plongée dans une France qui va bien, le contexte international très lourd n'affecte pas du tout l'optimisme des viticulteurs.
Merci, bonne journée. Yes, je gère. Hop.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai 8 kits à retirer.
Bonjour. Voilà. Dedans. Bonjour. Vous êtes avec ? Bah, je vais les préparer.
Notre caveau va ouvrir et donc les gens vont pouvoir venir avec... avec leur verre, leur kit, ils ont un petit carnet avec 8 vins à déguster. Donc ce sont des doses de dégustation. Hein, et donc ils vont aller de caveau en caveau et découvrir nos vins.
En fait, le même celui-là, il est...
L'idée c'était qu'on puisse faire
tous les vins en traversant que deux villages seulement. Voilà. Toutes les bouteilles qui ont l'étiquette de la Saint-Vincent Tournante, c'est une cuvée collective en mettant nos grappes, nos raisins en commun.
Là, j'ai le cahier des vendanges depuis les années 50. On a un mois d'avance sur les dates de vendanges par rapport à il y a 60 ans. Avant, c'était début octobre. Les années 50, 60, maintenant c'est fin août, début septembre. Par rapport au réchauffement climatique, on le sent vraiment dans les vignes, vraiment. Quand on a des années très solaires comme 2022, 2023, on a des vins qui sont très riches, qui sont très bons, mais qui sont différents des vins qu'on pouvait boire dans les années 80. C'est des vins qui ont plus de couleurs, qui ont plus de matière, qui sont différents. On n'avait pas l'habitude de voir des vins comme ça en Bourgogne. On était plutôt sur des vins avec des couleurs rubis un peu limpides. Et là, ça change.
Ouais. C'est vrai que voilà, on a une plante qu'on connaissait depuis des siècles, qui avait son rythme et on connaissait bien son rythme. Et aujourd'hui, il faut revoir tout ça pour justement limiter cette fatigue de la vigne et apprendre à anticiper les changements climatiques.
On continue à avoir un chiffre d'affaires régulier, mais je sais que l'export aux États-Unis, les pays asiatiques, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Ah non, il n'y a pas de rosé ici, les gars.
Dans les Maranges, désormais, on fait des vins qui sont très agréables sur la jeunesse, mais qui ont quand même cette capacité à très bien vieillir. Et on est très content de pouvoir montrer aujourd'hui voilà, ce que c'est qu'un vin des beaux terroirs des Maranges qui a quand même 7-8 ans de garde. Et voilà, tout le potentiel s'exprime maintenant. Donc c'est génial de pouvoir goûter un vin qui est à son optimum.
Ça va et toi ? Très bien, merci. Faites gaffe à ce que
vous... Bonjour.
Est-ce que vous l'avez trouvé bon ?
Oui, délicieux.
C'est vrai ?
On connaît bien, nous, donc on est habitués. Hein. On a des amis qui sont vignerons ici, chez qui on va régulièrement. Donc voilà. Mais c'est vrai que le Maranges mérite d'être connu. Avant, il n'avait pas vraiment la notoriété qu'il a maintenant.
Votre prénom, c'est comment ?
Dominique. Il y a toute une étude en train de regarder au niveau des cépages, savoir ce qui conviendra le mieux par rapport à ce réchauffement climatique. Pour l'instant, l'incidence, elle n'est pas vraiment flagrante, mais c'est vrai qu'il faut tenir compte des années à venir et que ça peut être aussi une problématique par rapport à ça, surtout en termes de maladies. Ça peut accentuer les différentes maladies, quoi.
Tout cela, bien sûr, avec modération. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le mardi 13h51, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de solidarité.
Et je vous emmène, Jérôme, à Nantes, où deux habitantes ont inventé une box cadeau un peu spéciale. Hein, pas de week-end au château, ni de saut à l'élastique, non. La boîte solidaire offre à la personne qui la reçoit la possibilité de réaliser une mission de bénévolat dans une association partenaire locale. Objectif de ce projet en cours, faciliter les mises en relation entre les personnes intéressées et les associations qui manquent de volontaires. Selon France Bénévolat, il y a 12 millions de bénévoles en France, mais un potentiel de 25 millions de personnes qui n'exclut pas de s'engager reste donc à les inciter. Parmi les actions envisagées dans la box solidaire, jardinage partagé, distribution de soupe, soutien lors d'événements caritatifs, le coffret coûtera entre 7 et 10 euros. C'est un outil de lutte contre l'isolement et de développement de l'esprit citoyen, expliquent les deux fondatrices dans Ouest France.
Et vous avez trouvé d'autres boîtes qui font du bien, Cyril ?
Oui, beaucoup d'associations fabriquent des boîtes de Noël solidaires, par exemple à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, avec le collectif Pour eux, qui a invité les habitants à préparer un colis avec un vêtement chaud, une gourmandise, un produit d'hygiène, un objet de loisir et surtout un petit mot. Ces boîtes ont été distribuées le 20 décembre lors d'une maraude pour les sans-abri dans des foyers pour adultes et enfants et à des étudiants également. Alors j'ai repéré, Jérôme, beaucoup d'initiatives du genre à Paris, à Bordeaux ou encore à Avrillé, 1400 habitants en Vendée. Le nom de l'association qui recueille les boîtes en dit long, les Petits Bonheurs Solidaires.
En parlant de Petits Bonheurs, Cyril, vous nous proposez une autre initiative qui fait des heureux.
Oui, parmi les centaines qui montrent la générosité des Français, j'ai retenu celle du Grand Café à Roubaix dans le Nord, qui depuis quelques jours fait le buzz sur les réseaux sociaux avec son café suspendu, Liton dans Nord Éclair, alors né à Naples en Italie. Le principe est simple, les clients peuvent payer d'avance un café supplémentaire.
On peut l'offrir en avance.
Exactement, ouais. Qui sera offert à un autre client qui n'a pas les moyens. Pas une journée sans qu'un généreux donateur ne participe à l'opération. Malgré tout ce qu'on peut dire, il y a encore un peu d'humanité, confie le gérant Ali à France 3 Hauts-de-France. Ça redonne le moral.
C'est un mécanisme qui fonctionne avec d'autres produits que le café.
Et oui, un certain boulanger suspend des baguettes. Et puis en janvier, à Blagnac, Comme dans d'autres communes de Haute-Garonne, les restaurants Mongélie ont suspendu des pizzas. Jérôme nous apprend la dépêche. Au moment de l'addition, on pouvait payer une part supplémentaire à 2 euros. Au bout de 6, la pizza complète est alors disponible. Et puis, citons aussi le réseau La Cloche, le Carillon. Dans 11 villes de France, il fédère des commerçants qui s'engagent contre la grande exclusion en proposant gratuitement des produits et ou des services. Par exemple, accès à un verre d'eau, recharge de téléphone, utilisation des toilettes, récupération d'un vendu, repas gratuit.
Et d'ailleurs, le dernier baromètre français de la fraternité vient de sortir.
Oui, dévoilé par Ouest France, il montre que 79% des Français jugent la fraternité comme une force pour le pays, mais souligne Laure Cellier, présidente du Labo de la Fraternité. Elle est mise à mal par les divisions et les inégalités et est trop souvent invoquée sans être vraiment vécue, ce qui rend Jérôme encore plus importante. Toutes ces bonnes idées qui peuvent un peu changer la vie.
Merci Cyril Petit du journal Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson, Julien Baldacchino, c'est une comédienne à l'affiche de la pièce de théâtre Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est à votre micro.
O.L. Lecor incarne le célèbre petit personnage à la Scala à Paris et en tournée dans toute la France. Elle a choisi le tube électro d'Eiffel 65 Blue, un titre qui l'emmène d'une école à la Bourboule à un festival de théâtre dans les Hautes-Pyrénées.
Le premier souvenir que j'en ai, je pense que c'est la Boom en CM2 en classe verte à la Bourboule. En réalité, j'avais oublié j'avais un peu oublié cette chanson. Voilà, elle m'était sortie de la tête. Et je l'ai redécouverte en juin dernier. On était dans un festival au Val d'Azun, le Murmure du Monde. On a joué en extérieur une pièce et pendant la représentation, il s'est mis vraiment à y avoir un énorme orage. Et on a dû se rapatrier dans une salle des fêtes. On l'avait vu la veille et on s'était dit « Ok, il ne faut absolument pas qu'on ait à se rapatrier ici. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a même pas de lumière. »
Parce que la pièce avait été conçue pour le plein air, c'est ça ?
Pour le plein air, ouais, exactement. Mais en fait, on s'est dit « Ok, c'est un one-shot, on ne peut pas l'abandonner. Les gens ont l'air de vouloir nous suivre. Ils sont tous montés dans leur voiture, ils vont arriver là dans 10 minutes. » Et la régisseuse, à ce moment-là, a lancé cette chanson pour qu'on remonte le décor. Et là, ça m'a rappelé justement cette Boom de CM2, l'euphorie qu'il y avait eu à ce moment-là quand on avait mis cette chanson. Et c'était la même, vraiment la même euphorie, le même entrain.
Et à ce moment-là, dans la salle des fêtes, il y avait du public. Le public vous avez suivi, c'était quelle ambiance ?
C'était très particulier parce que soudain, il y a des gens qui ont apporté des guirlandes de toutes les couleurs. Il y a des gens qui ont apporté des plantes dans des pots en terre qui venaient de chez eux. Et là, ça a pris, mais en 5 minutes. On avait fait une salle de spectacle, en fait. Et je me suis dit, ok, en fait, on peut faire théâtre partout.
Et tout ça sur la musique d'Eiffel 65. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce morceau-là, il apporte ça, il apporte cette euphorie ?
En fait, c'est très particulier parce que j'ai l'impression que c'est un morceau qui est assez mélancolique, quelque part. Enfin, voilà, le blues, le blue, ce petit guy, là. Mais il y a une espèce d'entrain. Puis surtout le dabedi-dabeda, qui vraiment veut rien dire. Pour moi, c'est le propre du lâcher prise, quoi. Enfin, je me rappelle en CM2, on bougeait les bras dans tous les sens, alors qu'on était normalement censé avoir des chorés, tout ça. Là, c'était n'importe quoi. Et là, pareil, on faisait n'importe quoi. Il y avait ceux qui accrochaient les guirlandes, ceux qui allumaient une espèce de projo un peu improvisé. Moi, je me souviens, j'étais en train d'essayer de placer les chaises et les tables. Enfin, c'était pareil, c'était le lâcher prise, mais c'était vas-y, on y va.
Ce morceau est sorti en 1998, Julien, et alors depuis, il a fait l'objet d'innombrables reprises.
Mais avec toujours cette même sensation de lâcher prise qu'O.L. Lecor convoque dans son travail de comédienne.
Moi, en tant que comédienne, j'écoute beaucoup de musique avant d'entrer sur scène. Parce que justement, ça ouvre les vannes, ça ouvre toute la sensibilité, je trouve, parce que ça vient parler ailleurs, ça vient parler à l'inconscient. Ça permet de s'échauffer aussi, de s'échauffer le corps. Ça vient, ça nous prend, quoi, ça nous possède. Et effectivement, une fois qu'on est libre, je pense que c'est plus facile pour interpréter un personnage.
Et cette chanson-là, vous ne l'auriez pas entendue il y a 15 ans, 20 ans en boom de CE2, votre rapport serait différent aujourd'hui ?
Ouais, bien sûr, il y a un peu la Madeleine de Proust. C'est sûr que, en plus, moi, le CM2, c'est 98. C'est Titanic, c'est la Coupe du Monde. C'est un peu l'âge d'or de l'enfance, quoi. On est les grands de l'école, c'est pas encore le collège, c'est pas encore difficile. On est vraiment dans le côté très pur, très naïf de l'enfance. Et cette enfance, ce bon sens aussi qu'il y a dans l'enfance, de justement, arrêtons de nous regarder, quoi. Dansons jusqu'à n'en plus pouvoir. Soyons des enfants tout en étant responsables, mais les enfants ils sont très sérieux, très responsables.
C'est un peu le Petit Prince qui dit ça, que les enfants ils sont sérieux et c'est pas la même chose que les grandes personnes.
Ouais, effectivement, c'est les grandes personnes sont décidément très bizarres, ils sont tout droits et quand ils entendent une chanson ils bougent que la tête ou que les bras, c'est bizarre.
Blue du groupe italien FL65, c'était donc le choix, Julien, d'Oël Lecor.
Allez applaudir dans cette très belle adaptation du Petit Prince, ce soir à Roubaix, jeudi à Saint-Quentin en Yvelines et en tournée jusqu'à cet été.
Merci Julien Baldacchino, je vous dis à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous nous parlez des poissons ?
Oui, on va se demander s'ils ressentent la douleur avec nos invités.
Très bonne question, à tout de suite.